It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Salut, c'est Thomas Rozek.
Salut, c'est Jennifer Pagimi du podcast Miroir Miroir.
Cet été, posé loin des tracas de la vie quotidienne, peut-être avez-vous bullé quelques temps sur vos applis préférées, peut-être même que vous avez pris un petit moment pour poster une, deux ou dix photos de votre cadre paradisiaque de vacances soigneusement sélectionné.
Ou peut-être que vous n'aviez pas de vacances et que tous les soirs chez vous, vous avez vu défiler sur vos timelines un florilège de plages, de dunes, de flots bleus et de maillots dernier cri. De quoi vous coller un sacré coup de cafard.
Car c'est pas une découverte, nos vies numériques, surtout sur les réseaux sociaux, ont un impact sur notre santé mentale. La réalité distordue que ces derniers proposent peut nous retourner le cerveau et y faire germer l'idée que nos vies réelles ne sont pas assez bien pour ces réservoirs à injonctions toxiques.
Mais à l'inverse, des plateformes comme Instagram peuvent être un véritable outil d'aide à celles et ceux qui traversent des passes difficiles. De plus en plus de professionnels de la santé mentale s'intéressent aux possibilités qu'elles peuvent offrir.
Et c'est cette contradiction qui sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invitée pour évoquer tout ça, c'est la psychologue et sexologue Stella Tiendré-Béogo. Elle s'intéresse de près à ces questions. Elle utilise même les réseaux sociaux pour démocratiser les problématiques de santé mentale. On lui a demandé, pour commencer, s'il y avait dans son secteur une réflexion en cours autour des enjeux liés à ces nouveaux outils.
Je pense que non. En tout cas, moi, je l'ai pas. Ni avec mes groupes de supervision, avec des confrères et des consoeurs qui sont plus âgés que moi, donc d'une autre génération qui sont pas du tout réseaux sociaux. D'ailleurs, quand j'apporte des cas avec des questions d'impact de réseaux sociaux sur la santé mentale, ils sont super intéressés. J'ai l'impression de parler un langage vraiment high-tech. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai fait un mini cours Instagram pour des psychanalystes qui ne comprenaient pas le concept d'Instagram. Donc non, je ne pense pas que la question soit vraiment apportée. Par contre, avec les psychologues qui sont plus jeunes, je pense que oui. Mais la question se pose plus en termes de protection. Est-ce que on doit être visible? Est-ce que pour des questions de neutralité, pour pas influencer quelque part les personnes qui vont venir nous voir, pour respecter les transferts et les contre-transferts qui vont pouvoir se faire, est-ce qu'on doit être sur les réseaux sociaux?
Ah oui, plus sur le côté, les soignants doivent-ils avoir une vie numérique?
Il y a cette question qui dit, ben non, moi je reste... En plus, on a peur qu'on nous prenne un peu pour des gens qui font de la communication ou qui font de la publicité et qui est hors, qui est contre thérapie pour nous. Donc ça se pose plus comme ça. Donc je pense pas que pour le moment, il y ait beaucoup de psychologues qui veuillent juste être sur les réseaux sociaux. Ils ont souvent deux comptes.
Oui, un compte perso et éventuellement un compte pro.
Mais est-ce qu'il y a une différence avec les psychologues aux États-Unis, par exemple, et en France, qui, on le voit, il y a de plus en plus de psys qui sont présents sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais pour avoir une approche thérapeutique en ligne.
Oui. Alors, il y en a énormément en Amérique. Moi, d'ailleurs, je m'inspire beaucoup de ces psychologues normalement... principalement noires, femmes qui s'exposent, qui disent ce qu'elles font, qui écrivent des livres sur comment elles ont ouvert leur cabinet. Alors moi, j'ai un exemple, par exemple, le jour où j'ai décidé moi-même d'être un peu plus exposée, c'est le jour où moi, j'étais dans mon lit et j'étais sur Instagram et il y a une des psychologues qui était elle-même dans son lit en bigoudi, en train de faire une vidéo, et en train de parler de sa journée, comment elle était épuisée, de tout ce qu'elle avait écrit, de ce qu'elle allait faire le lendemain. Et je me suis demandé si, malgré tout, moi, en tant que patiente, j'aurais pu aller la voir.
Oui.
Et je me suis dit oui. En fait, j'irai la voir justement parce que je m'identifie, parce que je trouve que, en fait, elle n'a rien à cacher, que j'ai pas de surprise et que la neutralité dont on nous parle... finalement, elle n'était pas si importante. Au contraire, elle est peut-être même un peu hypocrite parfois. Et donc du coup, je me suis dit oui, en fait, les personnes qui vont me voir, elles ont le droit aussi de savoir qui je suis. C'est un choix de faire une thérapie. Donc quelque part, pourquoi pas.
Est-ce que du coup, cette présence sur les réseaux, puisqu'on est parti sur cette dimension très particulière, elle peut permettre de déculpabiliser éventuellement des gens qui hésiteraient ou qui se poseraient la question d'entamer une thérapie et qui, en voyant arriver à leur rencontre des soignants éventuellement via les plateformes qu'ils utilisent, passeraient plus facilement le pas? Parce que ça peut être aussi ça, les réseaux sociaux.
Je pense que oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me contactent via Instagram. Mmh. Donc moi, j'ai un contenu public. Donc du coup, elles ont vu ce que je postais. Elles m'ont quand même contactée, donc ça n'a pas été un frein. Donc oui, je pense que ça peut être facilitant de voir vers qui on s'adresse pour parler de sa santé mentale.
Mais est-ce qu'au-delà du fait de potentiellement faire une thérapie et prendre le pas, il y a cette manière aussi de déculpabiliser sur la santé mentale,
oui,
sur les
vrai.
Questions de santé mentale.
Complètement, parce qu'il y a des posts, il y a un contenu qui est produit via ces réseaux sociaux qu'on pourrait pas avoir, sinon il faudrait aller dans des livres, se faire toute la bibliographie Freud, enfin tout le monde. Enfin, les réseaux sociaux permettent quand même de vulgariser, de rendre plus accessible un contenu, des fois avec des dessins, avec des schémas, avec des quotes, avec des citations super, super accessibles. Et c'est vrai que les gens... Enfin, moi, j'ai beaucoup de retours sur « Ah oui, c'est vrai, merci de dire ça, moi aussi, ça m'est arrivé. » Et oui, alors, sans qu'ils viennent chez moi, sans qu'ils suivent une thérapie avec moi, ils peuvent, du coup, ça, j'imagine, en tout cas, j'espère... que ça leur donne envie de faire une thérapie un jour.
Mais justement, dans le négatif, on peut avoir l'impression que c'est aussi devenu un outil marketing et que c'est devenu un peu tendance. Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention sur qui a le droit ou pas de se considérer comme psy, en tout cas en ligne? Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de parfois de prendre la place des psys en ligne?
Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y a des personnes qui manipulent du contenu, qui manipulent des concepts, notamment d'estime de soi, de confiance en soi, qui, pour moi, ne sont pas maîtrisées, de manière non maîtrisée. C'est sûr, des fois, je vois des choses passer et je me dis, waouh, même moi, en tant que psy, j'aurais jamais osé dire, si vous voulez avoir confiance en vous, vous n'avez qu'à faire ça, ça, ça. Donc, c'est une simplification des choses. Donc oui, il y a un côté négatif, mais je fais confiance aux personnes qui lisent ces contenus, parce que même quand je les rencontre, elles savent faire la différence entre une citation Instagram et puis ce qu'on fait en thérapie. Parfois même, elles osent elles-mêmes dire, bon, c'est une phrase Instagram, mais entre guillemets, elles la citent et elles savent faire la différence. Donc je me dis qu'à un moment aussi, les gens, oui, ils peuvent avoir le contrôle sur ce qu'ils ingèrent aussi sur Instagram. Donc, pour le moment, il faut être optimiste, mais...
Un des aspects négatifs, mais qui pour le coup est bien plus connu et revient beaucoup plus souvent quand on parle de ces questions-là, c'est la problématique des représentations, ce que peuvent susciter les réseaux sociaux dans l'esprit de personnes qui sont en situation de fragilité. Ça, j'imagine que c'est des cas qui sont de plus en plus fréquents. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle votre profession s'intéresse nécessairement.
Alors, je parlerai plus, peut-être pas de représentativité, mais peut-être de comparaison. C'est-à-dire qu'il y a, pour les personnes qui sont fragiles, les réseaux sociaux vont exacerber ce sentiment de faible estime d'eux-mêmes quand ils vont voir des comptes qui leur renvoient à quelque chose de négatif, d'une impression de ne pas avancer dans leur vie, de rien faire de bien. Et là, c'est super négatif, les réseaux sociaux, pour ça, quand on est fragile. Parce qu'il y a deux types de fragilité. Il y a la fragilité des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux et il y a la fragilité des personnes qui suivent et qui sont influencées par ces personnes qui exposent des choses. Mmh. Et donc, pour parler de ces personnes-là, je pense qu'il y a une déconstruction à faire de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est une seconde de la vie des gens. On n'a pas le backstage, on n'a pas toutes ces informations qui nous permettent d'avoir un regard critique sur cette photo. On se dit juste, en fait, moi, je ne fais pas ça. Et je pense qu'il faut un vrai travail sur soi pour changer de posture et se dire non mais cette personne elle m'influence, c'est super positif, elle me donne envie, ça m'inspire. Donc c'est hyper difficile quand on a une estime de nous-mêmes un peu, ben il y a des jours ben c'est pas trop ça, comme tout le monde et ça arrive. Et ben là on voit Jennifer qui a sorti son super podcast et nous on attend, ça fait 2 ans qu'on veut sortir le nôtre et on n'y arrive pas. Et oui, ça, on peut se dire et moi, ça peut nous renvoyer à quelque chose de super négatif. Donc là, à ce moment-là, il faut s'élever et se dire non, mais c'est super si elle l'a fait, peut-être que moi aussi je peux le faire et s'inspirer comme ça. Mais ça demande un vrai travail, ça demande de déconstruire aussi des critères de réussite qu'on a tous, c'est-à-dire que c'est quoi pour moi réussir ? C'est quoi pour moi avoir accomplir quelque chose ? Donc ça demande du travail sur soi. Je pense que c'est important de se dire qu'on ne contrôle pas ce que les gens y font dans leur vie, mais qu'on peut contrôler ce qu'on voit des personnes, notre feed, ce qui nous vient dans notre imaginaire, et qu'on peut aussi contrôler ce qu'on fait, nous. Donc ça, je pense que c'est hyper important de se sentir en contrôle de son réseau social, sachant que les réseaux sociaux sont super différents. Sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter, on ne va pas retrouver les mêmes aspects négatifs ou les mêmes renvois. Donc ça, c'est super important de savoir où on se met, en fait. Et pour parler de la fragilité, en fait, des personnes qui s'exposent... parce que moi, je vois plutôt ça, finalement. Des personnes qui finalement, sont ou se sont exposées sans faire exprès, parce que ben, c'était le moment et on leur a ou posé une question, ou eux-mêmes se sont dit que c'était bien de le faire. Ou des personnes qui pensent, en tout cas qui sont dans une conscience de ce qu'elles font, et qui finalement ont des effets très négatifs.
Oui, qui n'avaient pas forcément anticipé.
Et là, moi, je trouve que dans ce sens, les réseaux sociaux sont super violents. Et que quand même, pour s'exposer, il faut avoir une réflexion en amont de qu'est-ce que je veux donner à voir de moi aux autres. Et qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je ne pourrais pas contrôler, et que ben, le retour, je ne pourrais pas le contrôler. Et s'il arrive, c'est absolument pas de ma faute, c'est quelque chose qui est hors de mon contrôle. Et ça, je trouve que c'est très dur pour les personnes qui se sont exposées et qui ont cru donner pour du bien, mais qui finalement ont un retour super violent. Les vagues de harcèlement, des choses assez grandes, il y a des suicides quand même, mais je pense que ça, il faut le rappeler, qu'il y a des personnes, après ces vagues de harcèlement, qui se suicident, qui font des dépressions ou des anxiétés graves. Et je pense que oui, c'est grave ce qui se passe sur les réseaux sociaux parfois.
C'est pas encore assez dit, expliqué, montré ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est dit, on parle de harcèlement, il y a des événements où on parle de cyberharcèlement, il y a des plateformes de dénonciation, de signalement. Mais je pense que c'est pas suffisamment... ça arrive trop tard pour moi. Quand les personnes ont une dépression ou une anxiété suite à une vague de harcèlement, je trouve que c'est trop tard. Je pense qu'on aurait pu prévenir et leur dire, en tout cas, pas leur dire, mais qu'en tout cas, elles travaillent sur le fait que s'exposer peut amener à. Et que c'est quand même une plateforme qui peut être dangereuse pour l'estime de soi, pour la santé mentale, en fait.
Il y a un autre aspect qui nous avait intéressé avec Jennifer quand on avait préparé l'émission, c'était le côté peut-être un peu glamourisation de la dépression qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où il y a un certain nombre de hashtags qui presque mettent en valeur le fait de passer dans des phases de dépression. À la fois, on peut se dire que ça incite à prendre la parole et à être ouvert sur le fait qu'on peut des fois avoir des moments où ça ne va pas, mais qu'à la fois, il y avait un côté presque... Ça donnait une image presque romantique de la dépression et je me demandais quel impact ça pouvait avoir si c'était quelque chose auquel vous aviez déjà songé.
J'ai même lu un article récemment qui expliquait que les influenceurs, notamment les influenceuses beauté, étaient en train de pivoter, le mot pivoter m'a fait sursauter de ma chaise, étaient en train de pivoter vers l'anxiété. Et que du coup, leur nouvelle manière de communiquer était sur l'anxiété qu'elles avaient, sur la dépression, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable sur le fait qu'on pouvait penser que c'était un pivot marketing, entre guillemets, de parler de santé mentale.
Alors moi, je dirais qu'en fait, finalement, c'est pas si grave. Le plus grand danger est pour la personne. Parce que finalement, les personnes qui suivent ces comptes et qui s'identifient pas pour rien. Et ces personnes-là ont plus de chances d'aller voir un psychologue après avoir vu une influenceuse dans laquelle ils croient et qui dit « moi, j'étais alcoolique et je me suis soignée » ou « je me soigne » ou « c'est dur ». Et il y a une prise de conscience super. Donc, le plus grand risque, c'est d'abord pour la personne qui s'expose et qui, au fur et à mesure, crée un écart entre ce qu'elle est et ce qu'elle dit. Et donc, plus ce fossé grandit, plus j'imagine que cette personne va se sentir mal. Et après, ben, le retour en arrière est quand même difficile. Surtout quand les réseaux sociaux prennent une place super importante dans sa vie. Comment dire en fait finalement qui on est ? Comment repartir dans sa vraie vie ? C'est des personnes qui restreignent petit à petit leur liberté et que elles vont, j'espère en tout cas, à un moment aller en thérapie. Mais ça sera, je trouve, plus difficile pour elles. Mmh. Moi, je m'inquiéterais plus pour ce phénomène, enfin pour elles, plutôt que pour les personnes qui les suivent, qui, à la limite, vont être un peu déçues. Ils vont dire, bon, la personne que j'aimais bien, mais en attendant, elles ont conscientisé plein de choses sur elles.
Est-ce que, donc du coup, on va peut-être voir dans le futur des psychologues ou des psychiatres qui seront spécialisés uniquement sur ce sujet ?
Oui.
Pour justement arrêter peut-être de glamouriser le sujet qui, pour l'instant, qui vient des réseaux sociaux, qui vient de la communauté, enfin de la masse, et moins peut-être des professionnels de santé.
Je pense.
Est-ce qu'on verra ça plus tard ?
J'imagine. J'imagine bien, parce que je pense qu'on n'a pas, nous, psychologues, tous les outils. Pour le moment, c'est de la découverte. En tout cas, je parle pour mon cas. Hein, c'est de la découverte de phénomènes. Je peux me rattacher à des choses parce que il y a déjà un background théorique, mais je pense que on va devoir, nous, en tout cas psychologues, commencer à s'interroger sur et les personnes qui s'exposent et les personnes qui suivent, sur les phénomènes d'addiction aussi, de comportement compulsif. Donc oui, on y arrive, on est en plein dedans, je pense.
Est-ce qu'il y a des conseils à donner pour se détacher justement de ces réseaux des fois et de l'impact qu'ils peuvent avoir inconsciemment sans doute sur nous ?
Non, mais c'est difficile. On est tous pris dedans. Je pense qu'il faut aussi évoluer avec son temps et que nos cerveaux aussi évoluent avec les réseaux sociaux. On s'adapte aussi, nos synapses aussi petit à petit, s'adaptent forcément à ces réseaux sociaux, à cette quantité d'images et à cette rapidité d'images qu'on absorbe. Mais je pense que le plus important, c'est de se sentir en contrôle de son réseau social et de son téléphone finalement, et de même l'outil de quand on est en face de son téléphone, de se rappeler que c'est nous qui sommes en contrôle, de choisir les comptes qu'on suit, d'arrêter de suivre des personnes, même qu'on aime bien, même si c'est notre sœur, même si c'est notre meilleur pote à côté de nous. Et radicalement, il faut se dire, non, si ton feed me rappelle quelque chose, ben non, je me protège. De ne pas se sentir obligé d'ouvrir tout ce qui passe, ne pas se perdre dans les commentaires. Je pense que ça, c'est hyper important, parce que des fois, on peut être perdu dans un flot de commentaires et c'est du tout, il y a tout et n'importe quoi. Essayer de développer un sens critique. Les photos qu'on voit, ou même les vidéos, elles sont montées. Personne ne va prendre une photo de son salon sans avoir nettoyé, sans avoir caché tout ce qui traînait, sans avoir poussé un peu le bébé qui traînait là. Enfin, donc je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a tout un backstage derrière, qu'on fait tout ça et que c'est OK, que c'est un petit moment dans la vie d'une personne et que ça ne représente absolument pas sa vie, que nous aussi on a la nôtre, de se rappeler qu'on fait aussi des choses super bien, et si vraiment on n'y arrive pas, de compter jusqu'à 5 et d'éteindre son téléphone. Je pense que voilà, il ne faut pas hésiter, 1, 2, 3, 4, 5, hop, je dors.
Et un autre aspect très important qu'offrent les réseaux sociaux pour la santé mentale, c'est de rendre le sujet visible pour des minorités qui n'ont pas pour habitude d'y avoir accès. Il y a d'ailleurs plein de super comptes à suivre sur Instagram, notamment Therapy for Black Girls, recommandé par notre invité.
Merci à Stella Tiendré-Béogo pour ses réponses et à ma camarade Jennifer Padjemi d'avoir piloté avec moi cet épisode de Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.